Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors, on peut dire en tout cas que M. Legault a été clair hier devant les membres de l'Union des municipalités du Québec. Il a dit aux élus, on va vous donner des pouvoirs, mais pas de maudite scène de plus. Alors, est-ce que les villes vont l'interpréter de façon positive ou négative, Luc?
Non seulement ils vont l'interpréter de façon négative, parce que c'est un message très négatif, mais aussi parce que ce qu'ils donnent en compensation, c'est intéressant, là, les deux prix de consolation, c'est intéressant, on y reviendra, mais ça mettra pas beaucoup d'argent dans les poches des... Bon, en fait, pas du tout d'argent dans les poches des municipalités. Et là, les municipalités font une union, une solidarité. C'est toutes les plus grandes municipalités du Québec qui disent non, assez c'est assez. Et c'est pas juste pour des questions environnementales d'un leader, c'est appuyé par la population. Donc la population les a élus pour ça. Là. Je pense que Legault se trompe dans sa lecture de la situation. Les Québécois ne veulent plus. Dans les grandes villes, ne veulent plus développer sur les boisés, sur les rives, quand il en reste. Ils ne veulent plus ça. Pour une question de route, pour une question de qualité de vie, de congestion, d'accès à la nature, pour toutes ces raisons-là, on est rendu là et je pense que de ne pas le lire comme ça, il se trompe. Et les arguments qu'il apporte sont pas très forts non plus. Il y en a un qui est assez fort, il dit « ben moi, je vous donnerai pas d'argent parce que de toute manière, vous payez vos employés plus cher que nous, on les paie au gouvernement du Québec. » Ça, c'est un argument fort, sauf que cet argument-là est en modification depuis quelques années. Je pense que ça n'a pas été pris en compte. La grosse différence du paiement entre les deux, c'était les fonds de retraite. Puis les fonds de retraite, ça a été pris en compte dès 2015 à peu près. Maintenant, la différence est plus grande que ça. Par ailleurs, M. Legault lui-même, lorsqu'il fait face à des crises, on l'a vu en éducation. On l'a vu en santé, a beaucoup augmenté les salaires. On l'a vu aussi avec les préposés aux bénéficiaires. Alors, la différence ne peut être si importante, si grosse que ça. Mm. La deuxième chose, c'est que il fait la démonstration de ce qu'il veut vraiment. Il a dit, dans le même discours, je vais faire un troisième lien parce que je considère que le Québec a besoin de deux métropoles. Et donc, pour lui, deux métropoles, ça veut dire... On va faire avec Québec ce qu'on a fait avec Montréal. On va développer la rive sud. Et là, c'est pour la première fois qu'il l'avoue, là. Alors, c'est le fond de sa pensée aussi. C'est pas juste une question d'argent. Il voit le monde différemment je pense, de toutes les grandes municipalités du Québec et aussi de la population qui soutiennent ces municipalités-là.
Moi, j'ai trouvé qu'il était cabas hier, le premier ministre, parce que à 5 mois d'élection, aller devant le congrès, le prestigieux congrès de l'Union des municipalités du Québec, je me serais attendu à ce qu'il sorte son sac de cadeaux puis qu'il fasse plaisir aux élus. Ben non, ça avait l'air de plus Séraphin Poudrier, son affaire. Et ça, j'ai trouvé l'argumentaire un peu boiteux lorsqu'il dit, ben non, on peut pas vous donner, au nouveau pouvoir, mais pas de nouvel argent. J'ai trouvé ça boiteux parce qu'il dit, on est en déficit, mais lorsqu'il cogne à la porte d'Ottawa, il dit, ben là, on veut plus de transferts en santé parce qu'on a plus de responsabilités assumé en santé. Alors, tu sais, ça fonctionne pas sur le plan de l'argumentaire. L'autre chose, il dit... En fait, on a tous compris que politiquement, le choix du gouvernement était limpide hier. Là. On préfère en ajouter, en mettre dans les poches des Québécois plutôt que d'en envoyer dans les coffres des municipalités des villes du Québec. D'ailleurs, le premier ministre se vante d'avoir, dans son bilan, d'avoir retourné 3 milliards de dollars dans la poche des impôts des Québécois, dans la poche, pardon, des contribuables québécois. Alors, mais ça fait des années là, que les élus municipaux... Luc, tu peux leur témoigner. Moi, j'ai été maire, j'ai été ministre des Affaires municipales, tu étais maire, Luc. La dépendance, la trop grande dépendance des municipalités à l'impôt foncier, ça crée une pression importante. Par exemple, à Montréal, là, c'est 63 % du budget de la ville dépend de l'impôt foncier. Longueuil, c'est 75 %. Il y a des villes, c'est encore plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les villes, pour accueillir davantage de revenus dans leur coffre, ben, vont devoir émettre davantage de permis, construire, construire, construire. C'est ça que ça veut dire. Là, le gouvernement leur dit, écoutez, vous pouvez taxer, Mais parce que le gouvernement a dit, vous pouvez avoir plus de responsabilités, ça veut dire vous pouvez taxer davantage, mais non, on vous donnera pas d'argent de plus. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on, les municipalités, les villes sont invitées à être plus créatives. Alors, mais qui veut être créatif dans un contexte où le fardeau des contribuables est au plafond? T'sais, je vous donne un exemple concret, le péage. Quel élu à Montréal oserait lever la main pour dire, savez-vous quoi, on va imposer les péages maintenant à Montréal ou à Québec, par exemple, parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il faut lutter contre les GES. Personne va lever la main. Pourtant, la loi sur les cités et villes le permet.
Mm-hmm. Mais tu sais, la solution qui dit construisez, là, c'est en plus, c'est un cercle vicieux. Là. Quand on l'a vu avec la ville de Saint-Lin, avec ses problèmes d'eau, là, donc tu construis... oui, puis après ça, s'il y a plus d'eau dans la nappe phréatique, ben il faut installer des stations de pompage, il faut installer des puis la station de pompage, pas sûr que tu tombes sur une nappe phréatique, une nouvelle nappe phréatique, là, donc il faut faire beaucoup de travail pour s'assurer que la station de pompage va vraiment être durable dans le temps. Et le maire de Saint-Lin le disait. Il disait, oui, je construis, j'ai pas l'argent ni pour mettre les trottoirs, ni pour mettre les arbres. Faut d'abord qu'on vende les permis. Et puis voilà. Après ça va rentrer de l'argent.
Et c'est la taxe foncière, ça. Tout oui, passe par la taxe foncière.
C'est ça. Puis la
ça
taxe
crée une
foncière.
Une pression incroyable.
Oui. Oui. Puis là, y a, tu fais un peu d'argent au début parce que ils vont vendre des droits de mutation, puis ils vont vendre des permis aussi, puis en plus de la taxe foncière. Mais il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'à long terme, tu perds de l'argent en construisant parce que après ça, il faut que tu mettes des services là. Et des services, il faut que ils vont te demander une bibliothèque, une aréna, un parc local, un ci, un ça. Et il y a pas assez de monde pour financer ça quand tu construis.
Exact.
Alors, à un moment donné, il y a beaucoup de villes américaines qui ont fait faillite avec cette recette-là. Donc, ouais. De s'en laver les mains comme ça, ça marche pas. M. Legault, il va comprendre que ça marche pas. Par ailleurs, on suit un peu l'actualité, là. On a vu des centaines de millions partir vers différentes subventions, industries, etc. Là aussi, avec le branchement Internet des Québécois, je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais ce que je dis, c'est que ça coûte très cher. Et là, tu fais un choix. Tu dis, moi, je considère que c'est plus important d'avoir Internet d'une maison que d'avoir une maison. Parce que pour l'instant, il y a un problème d'avoir une maison. Il y a un problème de logement. Et si les villes du Québec s'obstinent et disent non, nous, on construira plus dans les boisés, dans les milieux humides, etc., le problème de logement va s'amplifier. Il y a un peu de densification possible dans les villes. Il y en a un peu. C'est difficile de faire de la densification dans les villes. C'est cher, c'est difficile. Alors, le problème de logement va s'amplifier. Donc, M. Legault est dans un cul-de-sac. Là, je ne comprends pas là, de s'obstiner.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, c'est l'heure du rapport des commissaires. On commence avec Nathalie.
Oui, think big, cher Paul. Ben, j'ai choisi cette célèbre citation de notre éleveuse Graton nationale pour illustrer la stratégie de la CAQ qui a choisi d'utiliser des panneaux publicitaires géants pour vanter son bilan. Peut-être avez-vous entendu parler de ça dans les médias. Si vous circulez dans les régions de Montréal, Québec et le secteur de Sherbrooke, peut-être que vous verrez ces immenses panneaux. Ils seront affichés jusqu'en juin. Alors, la CAQ fait la promotion de ses bons coups sur vraiment d'immenses panneaux publicitaires. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Le parti a même créé un site spécial, le bilan.org, et dans ces bons coups-là, qu'il y en a un pour toi, c'est la 104e promesse réalisée sur 104, et on peut lire « Forte augmentation des aires protégées au Québec ».
Oui, dans le nord du Québec, oui.
Non, ben voilà, j'ai pensé à toi, j'ai dit ça va le faire réagir, c'est sûr. Après le yin et le yang, voici le gap et le hob. Alors, les deux petits nouveaux du ministère de la Santé. Là, on essaie de s'y retrouver un peu. C'est la presse qui a fait état de cette nouvelle. Alors, pour faire fonctionner le GAP, le guichet d'accès première ligne ou le guichet d'accès patient, ça prend un hub. Le patient téléphone au GAP, l'infirmière qui va traiter la demande, elle va devoir, elle, avoir accès au hub. Le fameux orchestrateur, Paul, c'est le hub. C'est une plateforme qui regroupe 28 systèmes différents, dont la prise de rendez-vous. Alors, si un GMF veut inscrire ses disponibilités pour recevoir des patients, il va le faire sur le hub. Mais si le hub a des bugs, ça va être compliqué pour le GAP. Alors, pour le GAP, pour que le GAP donne de bons résultats, ça prend un hub qui soit efficace. Avez-vous compris?
Oui. Oui. Et je peux en ajouter, j'ai parlé avec le docteur Amiot ce matin, des omnipraticiens. Oui. Ça va marcher, Nathalie. Faut être positif, là, c'est vendredi, là. Ça va finir par donner des résultats. Là, il y a des doublons, il y a des plages de rendez-vous qu'on voit pas.
Je fais la vague, oui.
Mais soyons tous quand même rassurés. le cœur, le patient, pardon, est au cœur de nos préoccupations et la patente va finir par marcher. Merci.
La patente, c'est dit. Alors, un dernier point, on fait dur une vétérinaire forcée de quitter la pratique car elle ne parle pas suffisamment français. C'est le Journal de Montréal qui a révélé ça le 9 mai dernier. Ça se passe dans le Pont-Sac en Outaouais. Vous connaissez peut-être le Pont-Sac. C'est un secteur qui est très anglophone. Il y a une pénurie de vétérinaires. Mais parce que Mélissa Jovette, qui vient du Royaume-Uni, qui travaille depuis quatre ans dans le Pont-Sac, n'a pas réussi son test de français, ben, on lui a montré la porte. Alors, les élus là-bas, les propriétaires de chevaux, les producteurs agricoles se sont mobilisés, ont lancé une pétition pour qu'elle puisse continuer de pratiquer. Et ce qui est assez révoltant, c'est qu'il y a sur 126 vétérinaires dans la région d'Outaouais, il y en a seulement 9 qui sont spécialisés dans le domaine équin. Et parce qu'elle n'a pas passé son cours de français, elle doit bien baragouiner un peu le français, là, tu sais, mais parce que elle n'a pas passé son cours, on dit merci beaucoup, ciao, bye. Et là, tu vois, ça, c'est genre de dérapage lorsqu'il s'agit de promouvoir, de protéger notre langue française, que je trouve absolument absurde. Et une petite vite en terminant, ça finit bien la semaine, mon Dieu, je dois le souligner, Elon Musk qui n'achètera pas Twitter. Moi, je suis absolument ravie de cette nouvelle parce que je trouvais très inquiétant qu'un seul homme ne contrôle un réseau social si important, une menace à notre démocratie. Hein? 436 millions d'abonnés, je vous le rappelle, Twitter. Et il voulait même permettre à Trump qu'il soit à nouveau un utilisateur de Twitter. Il souhaitait le réhabiliter. Alors, je trouve sa décision de ne pas acheter Twitter extrêmement sage.
Il a dit par contre que c'était... il met ça sur la glace pour faire une vérification. Mais avec Pierre-Yves, il y a une analyse. Je résume ça vite, là, parce que je sais que Luc va en parler aussi. Mais il y a deux ou trois possibilités. La première, c'est qu'il veut faire réduire le prix.
Et ça va marcher.
Ça peut marcher, parce que là, il veut découvrir combien il y a de faux comptes puis des comptes fantômes. Il doit en avoir une coupe sur Twitter.
Là, tu pètes ma bulle. Là.
Non, mais tu vas voir. Après ça, c'est la possibilité donc de vouloir faire réduire le prix. Ou encore, ça ne tente plus pantoute, puis il cherche une raison pour s'en sortir.
Ah bon?
Parce que c'est trop cher. Mais là, son action a planté de 20% ce matin.
C'est pour ça que je dis que ça a peut-être marché sa stratégie. S'il fait chuter le titre de 20%, c'est plus facile à
acheter. Il a vendu ses actions avant, lui, là, que ça chute de 20%. Oh, okay. Il a fait une petite pause, pas pire.
Oui. Mais aussi, ça démontre que le gars a une stratégie. Bon, tu vois, le gars, il est peut-être pas aussi visionnaire qu'on le pense, là, parce que sa stratégie, c'était de multiplier par 5 le nombre d'utilisateurs payants, hein, et donc les revenus de l'entreprise. Mais il avait fait ça sans s'inquiéter des comptes anonymes, des faux comptes, voyons donc. Et il fait des recherches, lui, quand? Avant ou après qu'il parle? Ça, c'est une bonne question. Alors, je renchérirai pas sur la question, parce qu'on a d'autres sujets. Je pose une question à Nathalie et Paul. 140 000 morts, 350 blessés par balle par jour, je parle de quoi?
Des morts par balle aux États-Unis?
Eh oui, l'Ukraine. Mmh. C'est pas l'Ukraine. C'est 140 000 morts. Non, c'est pas juste les morts par balle. C'est les blessés par balle. 350 blessés par balle. Mais les 140 000 morts, c'est le total des morts d'overdose, de suicide et d'assassinat aux États-Unis par année, beaucoup plus que l'Ukraine. C'est quand même frappant. C'est quand tabarouette. On habite à côté de la nation la plus malade de la planète, je pense. Ou il y en a certainement d'autres, des micro-nations.
Je suis d'accord avec toi.
C'est fou, là. C'est nos voisins.
C'est une démocratie, la plus grande démocratie du monde, hein, c'est ce qu'ils disent.
Oui, ben ça va pas bien. je voulais parler du pape. Le pape qui s'en vient nous visiter Edmonton, Montréal, Iqaluit. Edmonton, Québec, Iqaluit. Il vient certainement pas pour les bains de foule, là. Il a pas choisi, à part Québec, il a pas choisi des endroits où il va avoir des bains de foule. Il vient vraiment pour, en promesse qu'il avait fait aux Premières Nations qui se sont présentées au Vatican il y a 2 mois, il vient offrir les excuses de l'Église catholique à cette terrible situation des orphelinats. C'est pas l'Église catholique qui a formulé le projet colonialiste britannique d'intégrer de force des nations autochtones au monde occidental. C'est pas l'Église catholique qui avait ce projet-là, mais elle a été le moyen utilisé pour le faire. Et donc, il vient formuler des... J'ai très hâte de l'entendre. Sais-tu pourquoi j'ai très hâte de l'entendre aussi? Parce que moi, je suis tanné d'entendre les Carlson de ce monde, puis les Johnny Depp, puis les Amber Heard, puis les Trump, puis tout ce qui est toxique de messages qui nous rentrent dans les oreilles. J'ai hâte d'entendre quelqu'un qui a rien à vendre. Fait que là, j'ai hâte d'entendre ça. Rand Paul, le sénateur républicain du Kentucky, qui a réussi à arrêter à lui seul l'aide de 40 milliards des USA que voulait envoyer des États-Unis, que voulait envoyer à l'Ukraine. Quand même, le citoyen américain, hein? C'est quelque chose, hein? T'as le président qui vote, le Congrès, le Sénat, ça commence à être pas mal de monde, ça. Une seule personne peut arrêter tout ça. Une seule personne. Donc,
le président n'a pas pu imposer son veto? Non,
ben non, c'est le contraire. Justement, c'est le contraire. C'est que chaque sénateur est donc porteur d'un veto temporaire. Okay. Évidemment, ils vont trouver le moyen de contourner ça. Ils vont faire un autre vote, moins sur le fast track, moins sur la voie rapide. Mais pour l'instant, ça a fonctionné. Là. Le gars, à lui tout seul, a arrêté les 40 milliards. Des fois, on se demande, est-ce que le système américain est fait pour agir? Est-ce qu'il est fait pour avoir des résultats? On sait combien de fois Obama a été incapable de mettre fin à la progression des armes sur le territoire. C'est un système qui n'est pas fait pour gouverner, il me semble.
Merci vraiment tous les deux. Passez une très, très belle fin de semaine. Puis on se retrouve lundi matin.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.